Récemment, Nvidia a pris la place de Google comme troisième capitalisation boursière au monde, juste derrière Apple et Microsoft. Leur montée en bourse a notamment été corrélée avec la sortie l'an dernier de ChatGPT. C'est à peu près à ce moment-là que tout le monde s'est rendu compte du potentiel qu'il y avait dans l'intelligence artificielle, du potentiel qu'il y avait aujourd'hui, mais également du potentiel qu'il y aura demain. Nvidia, sur ce point-là, s'est positionné aujourd'hui comme leader en tant que fournisseur de cartes graphiques, ces mêmes cartes graphiques qui sont utilisées pour l'entraînement de ces modèles, mais qui pourront également avoir un potentiel pour entraîner les modèles de demain. Sur ce point ici, Nvidia s'est positionné comme un des leaders en fournisseur exclusif, dans le sens où l'ensemble des sociétés aujourd'hui qui fournissent des services reposent en majorité sur des cartes graphiques qui proviennent directement de Nvidia. Cette valorisation est cependant remise en cause par certains qui pensent que Nvidia pourrait peut-être reposer sur une hype autour de l'intelligence artificielle qui doit encore aujourd'hui faire ses preuves pour prouver qu'il y a un marché, pour montrer qu'il y a une création de valeur. Mais surtout, certains pensent que Nvidia, même si aujourd'hui sont les leaders qui permettent cette révolution avec leur carte graphique qui permet l'entraînement de ces modèles, il y a également cette question de savoir si ce marché dans le futur sera partagé, dans le sens où il pourrait avoir d'autres acteurs qui se positionnent avec Nvidia comme fournisseur de solutions d'entraînement, ou si simplement l'entraînement continuera dans le futur à être le principal moteur de cette révolution, ou si d'autres parts du gâteau seront plus importantes, notamment l'utilisation des modèles par rapport à leur entraînement. Ici, mon rôle ne sera pas de vous donner une analyse financière de Nvidia et de vous inciter ou non à investir chez eux. Mon objectif sera plus de vous donner certaines pistes de lecture que j'ai au regard de Nvidia et du rôle que Nvidia pourrait avoir à jouer dans les années à venir pour l'intelligence artificielle. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la chronique d'une intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube, mais aussi sur les plateformes de podcast habituelles pour une écoute audio. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de Nvidia. Un point important à considérer lorsque l'on analyse Nvidia, c'est bien de considérer le fait qu'aujourd'hui, Nvidia est notamment leader sur la partie entraînement des modèles, non pas ou en tout cas moins sur l'utilisation, ce qu'on appelle également l'inférence. Aujourd'hui, Nvidia, à travers les cartes graphiques qu'il propose, permet justement d'entraîner à travers de gros clusters de calcul, de paralléliser l'ensemble des opérations pour faire en sorte d'entraîner des modèles de manière très efficace. Par contre, lorsque l'on est un fournisseur de services qui repose sur l'intelligence artificielle, la question c'est, une fois que ces modèles sont entraînés, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux reposer sur ces cartes graphiques qui sont extrêmement coûteuses? C'est le métier d'Nvidia de faire des cartes graphiques extrêmement efficaces, mais qui ont également un coût. Ou est-ce que mon objectif, c'est de faire en sorte de minimiser mes coûts d'inférence, donc c'est-à-dire de prix par utilisation? Lorsqu'on utilise des gros modèles, on parle aussi de prix par token, donc c'est le prix par mot. Quel est le coût qu'on va servir à notre client? Quel est le prix par token? Aujourd'hui, lorsque l'on fait cette analyse-là, il devient à peu près clair qu'on a des solutions alternatives à utiliser des cartes de Nvidia. La raison pour laquelle on a moins besoin aujourd'hui à l'inférence de Nvidia, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Le premier, peut-être, c'est le fait qu'il y a énormément d'acteurs qui fournissent du hardware spécialisé pour l'inférence de réseaux de neurones. Ce hardware est directement optimisé pour pouvoir faire tourner un réseau de manière très rapide lorsqu'on l'utilise simplement à l'utilisation. L'exemple le plus frappant aujourd'hui et très récemment, c'est notamment la mise en ligne de Grok, qui propose son LPU, Language Processing Unit, qui est un chip qui est directement designé pour exécuter des modèles de langage de manière très efficace. Et par contre, en revanche, ce chip-là est spécialisé pour exécuter seulement ce type de modèle-là, ou en tout cas des modèles basés sur les transformers. Contrairement à une carte graphique Nvidia qui va pouvoir entraîner et faire de l'inférence sur tout type d'architecture, des transformers, mais également des réseaux à convolution ou tout autre type d'architecture. Donc on a une grosse flexibilité du côté des cartes graphiques dans leur utilisation pour l'entraînement et l'inférence. Par contre, il y a de plus en plus des acteurs qui se positionnent en tant que fournisseurs de solutions spécialisées pour l'inférence. Ici, j'ai pris l'exemple de Grok, mais pour être beaucoup plus concret, aujourd'hui, des modèles, par exemple, ils vont être déployés dans deux types de catégories, notamment sur le cloud, ou sur, par exemple, des téléphones on edge. C'est-à-dire que lorsqu'on va déployer des modèles sur le téléphone directement, aujourd'hui, sur ce marché-là, c'est beaucoup plus des acteurs tels que Qualcomm qui ont la possibilité de se positionner comme fournisseur exclusif de solutions d'inférence pour des modèles d'intelligence artificielle. Ils ont déjà un circuit de distribution qui est bien établi, ils ont déjà un SDK et un hardware qui est capable d'exécuter ce type de modèle et ils progressent de plus en plus dans cette direction, même s'ils n'ont pas aujourd'hui au niveau du SDK pour l'avoir testé, c'est un enfer d'utiliser le SDK de Qualcomm. Par contre, le fait est qu'ils sont déjà positionnés sur ce marché, qu'ils ont le circuit de distribution et qu'ils sont aujourd'hui un des premiers acteurs qui pourraient profiter du déploiement massif de ces modèles-là. Et ici, sur ce point-là, Nvidia n'a pas l'avantage qu'à Qualcomm à être déjà bien établi. Et si l'on revient au déploiement de modèles sur le cloud, je pense ici qu'il y a un point qui est important à comprendre, c'est que quoi qu'il en soit, l'objectif ce sera de minimiser les coûts d'inférence. Et donc ici, il y a des méthodes qui sont utilisées, qui sont également finalement les mêmes qui sont utilisées lorsqu'on va déployer notre modèle en embarqué. Lorsqu'on va déployer notre modèle sur le cloud, de la même manière, on va essayer de faire en sorte que notre modèle puisse s'exécuter plus rapidement, qu'il soit plus léger à exécuter. Et lorsqu'on fait ça, on utilise généralement des techniques qu'on dit de quantisation et de pruning. Donc la quantisation, c'est à partir du moment où on va prendre notre modèle qui tourne et qui a été entraîné avec des flottants. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'exécuter simplement avec des entiers. Donc on va passer littéralement de float à des int, donc à des entiers. Et ce qu'elle va faire, c'est de représenter notre modèle avec cette basse précision. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est de l'exécuter beaucoup plus rapidement. Ça va demander certaines techniques, soit à l'entraînement, soit après l'entraînement, pour faire en sorte de faire cette conversion. Mais il y a de plus en plus d'outils à la fois à l'entraînement et post-entraînement qui permettent de faire cette conversion. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tout type de modèle qui est déployé, ou en tout cas s'il est déployé avec une idée de production en tête, il va passer par cette étape de quantisation. Et une fois qu'on a réalisé cette étape de quantisation et de pruning, le pruning c'est le moment où on se rend compte qu'on peut simplement utiliser un sous-ensemble des poids du modèle pour pouvoir l'exécuter, ce qui permet également de rendre l'exécution du modèle plus rapide et d'exécuter simplement un sous-ensemble de toutes les opérations qu'il aurait normalement fallu pour exécuter le réseau. Lorsqu'on fait cette quantisation et ce pruning, on va pouvoir utiliser moins de puissance de calcul pour exécuter notre réseau qui est maintenant plus léger. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à regarder des fournisseurs autres que les cartes graphiques Nvidia, ou en tout cas, on n'a peut-être pas besoin des grosses cartes graphiques que propose Nvidia. On peut commencer à utiliser d'autres hardware, on peut même utiliser le CPU. Il y a aujourd'hui des implémentations de gros modèles de langage qui tournent directement en CPU, qui ont été optimisés, fine-tunés dans toutes les petites opérations pour maximiser correctement un CPU pour avoir une inférence qui soit correcte. On peut derrière utiliser, même une fois qu'un réseau est quantisé et pruné, on peut l'utiliser également sur des laptops, sur des PC. On a vu énormément de démos qui tournaient directement sur un Mac. Alors certes, Apple propose également son propre hardware pour exécuter des modèles, les puces M1, M2, M3, qui vont dans cette direction-là et qui sont également spécialisées pour l'inférence et pour l'utilisation des réseaux. Là où je veux en venir, c'est que c'est exactement la même chose qui se passe en embarqué que ce qui se passe sur un serveur. On veut minimiser les coûts, on optimise donc notre réseau et donc on réfléchit avec beaucoup de précision à quel hardware est-ce qu'on veut utiliser. Et il se trouve ici que Nvidia n'est pas toujours la meilleure solution pour l'inférence, même si c'est la solution qui, lorsqu'on veut faire un premier POC, un premier proof of concept, peut être la solution à utiliser, notamment parce qu'une fois qu'on a une architecture qui est capable de faire du training, par définition, on peut également faire de l'inférence. Mais lorsqu'on va pouvoir imaginer à 1 ou 2 ans notre ROI, on va commencer à essayer d'imaginer d'autres solutions qui reposerait pas du tout sur le même hardware, ou en tout cas pas sur le hardware que Nvidia met en avant dans leurs conférences lorsqu'ils vantent un peu leur puissance de calcul. Maintenant, un point important à souligner, c'est que malgré tout, Nvidia propose des plateformes pour l'inférence de réseau, notamment à travers leur plateforme Jetson, des Jetson notamment avec la dernière génération, les Jetson Orin, qui permettent l'utilisation de modèles en inférence, notamment dans des contextes robotiques. C'est en tout cas dans ce type de contexte que les plateformes sont mises en avant. On a dans l'entreprise que j'ai cofondée, à Visual Behavior, on a énormément utilisé ce type de plateforme. On en a également testé énormément d'autres. On a testé notamment les plateformes à travers la Luxonis, qui tourne sur du OpenVINO. On a testé du Qualcomm. On a testé également d'autres fournisseurs, notamment par exemple sur du Ambarella, beaucoup plus dédié pour l'automotive. Et un point ici, un super important en retour d'expérience sur ces différentes plateformes, c'est que Nvidia fournit un SDK qui, comparé aux autres, est vraiment supérieur en termes de qualité, en termes de facilité d'utilisation. Il n'y a pas photo. Nvidia ici, et même en termes de communauté, en nombre de personnes qui l'utilisent et qui fournissent des solutions, Nvidia ici s'est très très bien positionné. Donc aujourd'hui, leur plateforme qu'ils fournissent, avec notamment les différents outils, Tensor RT par exemple, c'est un des outils qui est utilisé sur les plateformes Nvidia et qui permettent de pouvoir facilement réaliser l'optimisation du modèle qu'on va vouloir déployer pour la carte graphique, pour dans ce contexte-là directement les Jetson, mais qui va pouvoir également effectuer des opérations pour la quantisation, qui va permettre d'optimiser le réseau correctement pour l'inférence. Ici, sur ce point-là, Nvidia, comparé à d'autres plateformes, est vraiment un cran supérieur. Et donc, ce que ça leur permet de faire, c'est sur tous les endroits où aujourd'hui il n'y a pas un acteur correctement établi, ça leur permet quand même à travers les Jetsons et notamment à travers l'embarqué de se positionner comme leader et notamment être plus précisément sur la robotique. Et ici, sur le contexte de la robotique, en plus des plateformes telles que les Jetsons qui permettent le déploiement de ces modèles, il y a également toute une stack logicielle, notamment par exemple avec l'utilisation de Isaac Sim qui permet de simuler complètement des entrepôts ou des environnements en 3D qui permettent de les simuler de manière réaliste en reproduisant exactement le robot qu'on souhaite déployer dans un environnement, qui permet de reproduire également les différents capteurs que l'on souhaite utiliser. Historiquement, même, on utilisait il y a plusieurs années un des leaders pour simuler des environnements, c'était Mujoco. C'était un simulateur qui a été utilisé pour rapidement simuler des environnements robotiques. Aujourd'hui, le leader qui est sur cette partie-là, sur la partie apprentissage par renforcement, c'est devenu Isaac Sim, qui permet de simuler correctement le robot, sa dynamique, comment est-ce qu'il se déplace dans l'environnement et surtout l'ensemble de ses capteurs pour que ces capteurs puissent ensuite avoir une acquisition sur le monde et essayer de reproduire dans une simulation l'ensemble des perceptions que un robot pourrait avoir dans le monde réel. Et ce que ça permet notamment avec Isaac Sim, c'est de simuler plein de scénarios, de changer les textures, essayer de reproduire tous les edge cases qui sont compliqués à reproduire dans le monde réel, ça va être de les reproduire directement en simulation. Donc Isaac Sim, à côté de l'utilisation simple des modèles, va fournir tout un environnement qui va permettre également l'entraînement de ces modèles-là, mais en tout cas plus un entraînement dédié à la création de la donnée, dans le sens où Isaac Sim fournit la création de la donnée, donnée qui est utilisée ensuite pour l'entraînement des modèles, et ici la Jetson, dans ce contexte robotique, peut ensuite utiliser ces modèles en production sur un robot. À travers ce cercle vertueux qui est mis en place par Nvidia, qui va de la création de données, qui permet l'apprentissage par renforcement dans des simulations, qui est rendu possible également par l'ensemble de l'infrastructure avec les cartes graphiques qui sont fournies pour l'entraînement, jusqu'à, en bout de chaîne, la Jetson qui va pouvoir accueillir ces modèles pour faire de l'inférence, on voit que ce cercle qui est mis en place par Nvidia, il fait du sens parce qu'il s'intègre dans une stratégie qui est de rendre possible la robotique autonome. Et notamment, dans la robotique autonome, aujourd'hui, on voit une renaissance de la robotique humanoïde. On le voit récemment avec énormément d'entreprises qui commencent à reproposer des robots humanoïdes. Là où on avait vu un échec de la robotique humanoïde, on l'avait vu notamment en France avec Pepper, avec Aldébaran Robotics, avec Nao, qui avait pris ce créneau de la robotique humanoïde. Mais ensuite, Aldébaran avait été racheté par SoftBank, notamment parce que le robot Pepper n'était pas vraiment viable pour proposer quelque chose de cohérent. Aujourd'hui, on voit une renaissance avec des entreprises telles que Figure, avec le Tesla Bot, avec en France par exemple avec Enchanted Tool qui repropose ce type de robot parce qu'on voit qu'à travers ce type de modèle, on pourrait avoir aujourd'hui une opportunité de comprendre potentiellement le monde et donc de proposer de la valeur. Et on voit une renaissance de la robotique humanoïde. Et donc là où la robotique industrielle aujourd'hui et peut-être cantonné à une intelligence qu'on pourrait assimiler à des automates, à une automatisation très simple, pure et dure de certaines tâches, on pourrait imaginer une renaissance avec le déploiement de robots humanoïdes qui pourraient, eux, proposer des tâches beaucoup plus variées, qui pourraient donc créer vraiment ici un tout nouveau marché qui n'a pas encore été créé. Et d'ailleurs, sur ce point-là, c'est intéressant parce que Elon Musk le dit lui-même que le Tesla Bot pourrait à long terme créer bien plus de valeur que les voitures qui sont vendues par Tesla. Le Tesla Bot lui-même en fait pourrait créer, en fait accéder à un nouveau marché bien supérieur à la voiture autonome. De la même manière ici, si Nvidia se positionne sur la robotique, qui est un de ses moteurs à travers ce cercle vertueux de la robotique humanoïde, Nvidia pourrait être un des acteurs majeurs qui permet cette révolution et qui du coup pourrait se positionner comme un acteur bien supérieur à Qualcomm pour le déploiement des modèles, mais pas seulement, également sur la création des données nécessaires à ces entraînements, sur les cartes graphiques nécessaires à l'entraînement des modèles et sur les plateformes qui permettent l'inférence de ces modèles à travers les Jetsons.